enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Derek Prince est reconnu comme un des enseignants de la Bible les plus renommés de notre époque. Il est l'auteur de plus de 30 livres traduits dans près de 50 langues.
Bonjour et bienvenue dans notre série d'émissions « Poser les fondations ». Nous continuons sur le thème « L'autorité et la puissance de la parole de Dieu ». Dans cette nouvelle partie, Derek Prince nous invite à découvrir la nature et les effets pratiques de la parole chez ceux qui la reçoivent.
L'Écriture peut pénétrer là où aucun scalpel de chirurgien ne peut pénétrer, ni tout le savoir-faire d'un psychiatre ne peut pénétrer. C'est la seule chose qui nous amène en plein dans les ultimes profondeurs de la personnalité humaine. Puis il dit, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Discerner signifie analyser, voir au plus profond de la nature même d'une chose. Quelqu'un a dit il y a des années, alors que j'étais un jeune chrétien, et ceci est resté gravé en moi, n'oublie pas que quand tu lis ta Bible te lit également. Il s'agit d'un échange bilatéral. Cela m'a beaucoup frappé, car j'avais commencé à lire ma Bible simplement comme un philosophe professionnel, en la considérant comme un ouvrage de Dieu. Mais tout en poursuivant mes lectures, et alors que je la trouvais très aride, et que seule ma détermination me faisait refuser de me voir vaincu par un livre, j'ai commencé à me sentir un peu différent. Je pensais, à ce moment-là, que j'avais vraiment toutes les réponses à tout. La philosophie pouvait fournir une solution à tout, mais alors que j'avançais dans ma lecture de la Bible, je devenais de moins en moins sûr de moi. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Je pensais que je vieillissais avant l'heure alors que je n'avais même pas 25 ans à l'époque. Je ne réalisais pas que pendant que je lisais la Bible me lisait. Et en fin de compte, j'étais comme Belshazzar lors de son festin au moment où l'inscription apparaît sur le mur. Tu as été pesé sur la balance et tu as été trouvé léger. Mon amour propre, mon orgueil, mon arrogance, mon assurance intellectuelle, tout s'effritait devant les Écritures. Et pourtant, je n'y croyais pas à ce moment-là. Pourtant, elle faisait son travail. C'est pourquoi gardez cela en mémoire. Quand vous lisez votre Bible est également en train de vous lire. Maintenant, tournons-nous aussi vers 1 Thessaloniciens pendant un moment, juste pour étudier un aspect supplémentaire de ce que la Bible fera. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13. Paul écrit aux croyants de Thessalonique qui ont répondu d'une façon merveilleuse au message de l'Évangile. Il dit, « Nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais comme la parole de Dieu, en qui agit en vous qui croyez. » Vous comprenez que ce que la Bible fera en vous dépend, en partie, de la manière dont vous la recevez. Si vous la recevez simplement comme la parole d'un homme, elle ne pourra pas opérer pleinement en vous. Comme une parole de Dieu. Mais si vous la recevez comme la parole de Dieu, elle travaille de manière efficace en vous. Et quand vous lisez votre Bible, prenez le temps, parfois, de dire au Seigneur, « Je crois que ceci est ta parole. Je la reçois comme ta parole. Permets qu'elle opère sur tout ce que tu l'as envoyé opérer en moi, dans chaque domaine de mon être, esprit, âme et corps, car je le crois. » Nous avons besoin de regarder également une déclaration remarquable que Pierre a faite dans 2 Pierre, chapitre 1. L'une des citations les plus remarquables, je pense, de toute la Bible. Comme sa divine puissance, c'est-à-dire la puissance divine de Dieu, nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. C'est une déclaration stupéfiante. Elle dit que le pouvoir divin, omnipotent de Dieu, nous a déjà donné tout ce dont nous aurions besoin un jour. Vous pourriez répondre, « Eh bien, Dieu, je n'ai pas l'impression de tout avoir. Où est-ce » Et le verset suivant vous dit, « Lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. » Comment Dieu nous a-t-il donné toutes les choses dont nous avons besoin pour la vie et la piété? Où sont-elles? Elles sont dans les promesses. J'aime cette petite phrase que j'ai soulignée. La provision est dans les promesses. Voulez-vous le répéter avec moi? La provision est dans les promesses. Donc, si vous voulez recevoir tout ce que Dieu a préparé comme provision pour vous, vous devez le recevoir à travers ses promesses, car en elles se trouve tout ce dont vous aurez besoin. Mais cela vient également à travers la connaissance de Jésus, car les Écritures révèlent Jésus. Et la déclaration stupéfiante, si cela n'était pas écrit noir sur blanc dans la Bible, je n'oserais pas en parler. C'est qu'au travers du partage des promesses, nous pouvons être les dispensateurs de la nature divine, en ayant échappé à la corruption qui est dans le monde par la convoitise. Mais il nous faut être très prudents, car il existe un type d'enseignement que je ne nommerai pas, mais beaucoup d'entre vous doivent le connaître, qui est très à la mode aujourd'hui, qui vous enseigne que si vous persévérez assez longtemps et que vous faites les bonnes choses, vous pouvez devenir un dieu. Je suis sûr que certains d'entre vous ont déjà entendu parler de cet enseignement. Quoi qu'il en soit, le Nouvel Âge, en incorporant beaucoup de philosophies hindouistes et d'autres choses encore, vous enseigne que si vous persévérez suffisamment longtemps, et soit dit en passant, les Mormons disent la même chose, ils n'en parlent pas publiquement au début, mais c'est présent néanmoins, vous pouvez devenir un dieu. Je tiens à vous dire que ceci est faux, bien évidemment, et je vous en donnerai une raison fondamentale. Dieu n'a pas été créé et nous sommes créés. Et ce qui est créé ne peut que rester créé. C'est une tromperie. Mais nous pouvons devenir des dispensateurs de la nature de Dieu en recevant et en mettant en application les promesses. Je pense toujours à l'échelle de Jacob. Vous vous souvenez probablement du rêve qu'il a eu. Il était dans le désert, tout seul, et il s'est endormi la tête sur une pierre qui lui servait d'oreiller. Combien d'entre vous aimeriez s'endormir la tête sur une pierre? Eh bien, je vais vous dire, quand j'étais au Soudan, parmi les Adwandwa, au nord du Soudan, j'ai découvert qu'ils utilisaient des pierres comme oreiller. Je regardais un Soudanais un jour, il prit une longue pierre au contour assez aiguisé, la posa sur le sol, puis posa l'arrière de sa tête sur la pierre et s'endormit sans aucune difficulté. Donc, c'est possible, mais la plupart d'entre vous n'apprécieraient pas vraiment. Mais Jacob s'était endormi la tête sur une pierre. J'ai entendu quelqu'un dire un jour, « Je serai prêt à m'endormir la tête couchée sur une pierre si c'est pour vivre ce que Jacob a vécu juste après. » Car il a eu une vision, le rêve d'une échelle atteignant les cieux. Les pieds étaient sur la terre, le haut de l'échelle était dans les cieux, et les anges de Dieu étaient en train de monter et de descendre. Jésus lui-même était en haut de l'échelle et il se mit à parler. Je pense que la Bible est, d'une certaine façon, un peu comme l'échelle de Jacob. Vous voyez, chaque promesse est comme un barreau de l'échelle. Et chaque fois que vous vous appropriez une nouvelle promesse, vous gravissez un barreau de plus. Et au bout du compte, elle vous mènera jusqu'au ciel. C'est pourquoi ne négligez jamais votre Bible. C'est la clé de votre bien-être, la clé de votre succès. C'est le bien le plus précieux que Dieu nous ait laissé. Et gardez en mémoire, alors que nous avons tant de Bibles aujourd'hui et que nous discutons pour savoir si nous allons utiliser telle ou telle traduction ou si nous la voulons avec illustration ou avec des notes, qu'il y a des millions et des millions et des millions de gens dans le monde de nos jours qui n'ont jamais une seule fois ouvert une Bible. Ils n'ont pas le choix. Et rappelez-vous autre chose, c'est que dans le passé, dans les siècles qui ont précédé, des hommes et des femmes ont livré leur vie en sacrifice pour sauvegarder la Bible, pour vous et moi. Alors traitez-la avec révérence. Soyez respectueux envers la Bible, car c'est le chemin par lequel Dieu vient dans nos vies. Maintenant, je voudrais m'attarder, pour finir cette partie, sur quelque chose de passionnant, mais que j'ai juste abordé rapidement. Ce sont les effets provoqués par la parole de Dieu. Paul dit aux Thessaloniciens qu'elle agit de façon efficace en vous uniquement parce que vous y croyez. Alors je veux vous indiquer 8 effets que la parole de Dieu peut avoir dans votre vie. Ce sont des choses que la parole de Dieu peut faire pour vous et pour moi. Nous lirons tout d'abord Romains, chapitre 10, et le verset 17. En vérité, je peux le citer sans le lire, mais... Romains, chapitre 10, verset 17. Ainsi, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. C'est un passage merveilleux des Écritures, parce que je suis resté couché dans un hôpital pendant un an, dans le désert d'Afrique du Nord, avec une maladie de peau que les médecins ne pouvaient guérir sous ce climat. Ils ont fini par le diagnostiquer comme un eczéma chronique. Et en fait, ils ne savent toujours pas soigner cette maladie encore aujourd'hui. Je venais de me convertir et je ne cessais de me dire, « Je sais que si j'avais la foi, Dieu pourrait me guérir. » Mais ce que je me disais tout de suite après, c'était, « Mais je n'ai pas la foi. » Et du coup, je me retrouvais dans ce que John Bunyan a appelé le bourbier du découragement, la vallée du désespoir. Je n'ai pas la foi. Puis un jour, un rayon de lumière brillant pénétra dans cette vallée de ténèbres et il arriva par le biais de Romains, chapitre 10, verset 17. Et la foi vient. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez la recevoir. Rien ne vous oblige à rester sans. La foi vient en entendant la parole de Dieu. Et la foi vient à beaucoup d'entre vous en ce moment même, alors que vous entendez la parole de Dieu. Vous savez qu'à l'époque du Nouveau Testament, la majorité des gens qui lisaient le faisaient à voix haute, en parlant fort, même quand ils étaient seuls. Par exemple, l'eunuque éthiopien était dans son chariot lisant le prophète Ésaïe, et Philippe l'a entendu lire à voix haute. Parce que quand vous vous entendez lire, la foi vient, vous voyez? Très bien. Voilà, c'est le premier effet produit par les Écritures. Le second est qu'elle amène la nouvelle naissance. C'est par la parole de Dieu que nous sommes nés de nouveau. Jacques, chapitre 1, verset 18, parlant de Dieu, dit « Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, c'est-à-dire la Bible, afin que nous soyons, en quelque sorte, les prémices de ses créatures. » Selon sa volonté. Vous savez pourquoi Dieu a fait cela? Parce qu'il avait décidé de le faire. Nous n'avons pas d'autre explication que cela. Si vous remontez au commencement de toute chose, tout débute par une décision de Dieu. Dieu a décidé de se créer un peuple pour lui-même. Et il a décidé qu'il serait créé par la parole de Dieu, par les Écritures. Et ce qui nous a amené à Dieu, vous et moi, pour devenir une nouvelle création, le peuple de Dieu, c'était par la parole de Dieu. Puis, dans 1 Pierre, il poursuit sur le même thème. 1 Pierre, chapitre 1, versets 22 et 23. Chapitre 1, versets 22 et 23. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité par l'Esprit, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres. Voyez comment purifier votre âme en obéissant à la vérité. Pas en écoutant la vérité, mais en lui obéissant. Et quel sera le résultat? Le résultat sera un amour sincère. Et alors, Pierre poursuit. Puisque vous êtes né de nouveau, notez cette expression, vous êtes né de nouveau, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible. Quelle est la semence incorruptible? Par la parole vivante et permanente de Dieu. Ainsi, c'est la semence de la parole de Dieu reçue dans nos cœurs par la foi qui produit la nouvelle naissance. La semence est incorruptible, la vie qu'elle engendre est incorruptible. La nature de la semence détermine la nature de la vie qui en découle. Si vous plantez un noyau de pomme, vous n'obtiendrez pas un oranger. La nature de la semence détermine la nature de la vie. La parole de Dieu est incorruptible et la vie qu'elle produit est incorruptible. Elle est divine, sainte et éternelle. Et une fois que vous êtes né de nouveau, vous avez besoin de nourriture. Et ce qui est merveilleux, c'est que la parole de Dieu fournit la nourriture appropriée pour chaque étape de la croissance spirituelle. Quand vous n'êtes qu'un bébé spirituel, vous avez besoin de lait. Et c'est ce que dit Pierre dans le chapitre suivant de 1 Pierre au verset 2. 1 Pierre, chapitre 2, verset 2. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur de la parole, afin que vous croissiez par lui. Donc, dès que vous êtes né de nouveau, vous devriez avoir un appétit très aiguisé pour la parole de Dieu. Et beaucoup d'entre nous ici ce soir, j'en suis sûr, pourraient témoigner que lorsque nous sommes nés de nouveau, la seule chose que nous voulons faire, c'est lire la Bible. Nous sommes nés comme des enfants en bonne santé, dotés d'un bon appétit pour la seule chose qui pouvait réellement nous nourrir. Mais quand nous grandissons, nous avons besoin de choses comme du pain. Il n'est pas nécessaire de s'attarder là-dessus. Jésus a dit à Satan, quand il est entré dans le désert, de transformer des pierres en pain. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, la parole de Dieu n'est pas seulement du lait, c'est aussi du pain. Mais quand nous grandissons, nous avons besoin de nourriture plus solide, et ceci est également pourvu. Dans Hébreux 5, l'auteur de Hébreux s'adresse au peuple juif, qui avait une connaissance des Écritures de par leur origine. Il leur dit que ce que Dieu aimerait dire à certains d'entre nous, à cause de tout ce que tu sais, tu devrais faire mieux que ce que tu fais. Il dit, « Vous avez la connaissance des Écritures, mais vous n'en faites rien. » Je vais juste lire ces mots dans Hébreux, chapitre 5, verset 12. « Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venu à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. » Quelle en était la preuve? Ils ne pouvaient digérer plus que les vérités les plus simples, les plus fondamentales. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Vous comprenez? Pour mûrir, vous devez exercer vos sens. Vous devez pratiquer. Vous devez mettre en pratique la parole de Dieu. Vous devez l'utiliser pour reconnaître les situations dans lesquelles vous vous trouvez, les forces contre lesquelles vous vous confrontez. C'est le chemin de la maturité. Si vous ne mettez jamais sérieusement en pratique la parole de Dieu, vous ne deviendrez jamais mature, mais vous ne serez jamais capable de prendre plus que du lait ou au mieux un peu de pain. Mais la nourriture solide est uniquement pour ceux qui ont pratiqué, qui se sont exercés, qui ont mis en pratique régulièrement et avec zèle la parole dans leur vie. Voici donc le troisième résultat produit par la parole de Dieu, c'est la nourriture spirituelle. Le quatrième résultat est l'élimination mentale. Je veux lire le psaume 119, un verset familier pour beaucoup, j'en suis sûr. Psaume 119, verset 130. Le psalmiste parle à Dieu et dit, « La révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. » Donc, l'arrivée de la parole de Dieu dans nos esprits et dans nos cœurs apporte la lumière. C'est différent de l'éducation. L'éducation n'est pas la lumière. Vous pouvez être éduqué et totalement dans les ténèbres. Comment je le sais? Parce que j'y étais. J'étais très bien éduqué et totalement dans les ténèbres, jusqu'à ce que la lumière de la parole de Dieu vienne dans ma vie. Donc, souvenez-vous, l'éducation n'est pas la lumière. Theodore Roosevelt, l'un des premiers présidents des États-Unis d'Amérique, dit un jour, « Si un homme est un voleur, il volera une voiture de chemin de fer, ou un wagon, ou un compartiment. Mais si vous éduquez ce même homme, il volera le chemin de fer. » Alors, s'il vous plaît, gardez bien en tête que l'éducation est très utile, mais ce n'est pas la lumière. En fait, comme je l'ai dit, certains des esprits les mieux éduqués sont dans les plus épaisses ténèbres. Ce n'est que l'entrée dans la parole de Dieu qui donne la lumière. Et puis, la parole de Dieu donne la guérison physique. Et je dis ceci en me basant sur ma propre expérience. Allons au psaume 107 un instant. Lisons du verset 17 jusqu'au verset 20. Les insensés, c'est-à-dire les gens des autres églises, ils ne se jalousent jamais de vous, de moi. Par leur conduite coupable et par leurs iniquités, s'étaient rendus malheureux. N'avez-vous jamais remarqué que certains d'entre nous sont malheureux parce que nous avons mené une mauvaise vie? J'ai entendu tellement de personnes venir à moi pour recevoir la guérison. Elles ont très rarement pensé que la source de leur problème venait de leur mauvaise façon de vivre. Mais il est dit que ce sont des fous, car ils sont malheureux à cause de leurs iniquités. Leur âme avait en horreur toute nourriture et est touchée au port de la mort. Ils étaient à l'article de la mort. Les docteurs ne pouvaient plus rien pour eux. Puis il est dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Mon commentaire, c'est que les gens attendent souvent très longtemps avant de se mettre à prier. Ils étaient au port de la mort et il leur semble tout d'un coup que prier pour les aider. Et que fit Dieu? Écoutez. Et il les délivra de leur angoisse, il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper à la fosse. Remarquez trois choses que fait Dieu lorsqu'il envoie sa parole. Il sauve, il guérit et il délivre. Les trois grands actes de la grâce de Dieu, sauver des péchés, guérir de la maladie et délivrer du pouvoir des démons, il les accomplit avant tout au travers de la parole de Dieu. Certains d'entre vous, je le sais par expérience, recherche un prédicateur qui vous imposera les mains, priera pour vous afin que vous soyez guéri. Bon, puisse cela arriver. Mais je sais, car beaucoup de gens viennent à moi, ils pensent que si j'ai prié pour eux, ils seront guéris. Ils ne le sont pas, et en fait, cela me préoccupe un peu, car je vois bien qu'ils sont en train de rechercher le frère prince et non le Seigneur. Et laissez-moi vous dire, vous pouvez guérir sans aucun prédicateur. Si vous recevez la parole de Dieu, car il a envoyé sa parole, il les a guéris et délivrés de leur détresse. Et là se trouve mon verset favori, celui qui m'a sorti de l'hôpital alors qu'aucun médicament n'avait pu le faire. Proverbes chapitre 4, versets 20, 21 et 22. Je le cite dans la version seconde révisée, car c'est ainsi que cela m'a été donné. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Garde-les au fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. La parole de Dieu, dit-il, sera la santé pour ta chair. Alors donc, j'étais là. Cela faisait 7 mois que j'étais à l'hôpital. Les docteurs ne me guérissaient pas. Et je me disais, si seulement j'avais la foi, je sais que Dieu me guérirait. Et puis, j'ai vu ce passage de l'Écriture. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Je commençais à espérer, et je me suis mis à parcourir l'Écriture avec un nouvel espoir. Mais voyez-vous, j'avais un problème. J'avais été philosophe de profession, et le boulot d'un philosophe, c'est de faire que les choses simples deviennent compliquées. Ça se passe comme ça quand ils sont élus. Donc, je ne pouvais pas appréhender la parole dans sa simplicité. Je lisais les promesses sur la guérison de Dieu les unes après les autres, mais je pensais que ça ne parlait que de la guérison de mon âme. Il ne s'intéresse pas vraiment à mon corps, c'est quelque chose qui se corrompt. Il mourra de toute façon. Béni soit le Seigneur, ô mon âme, pardonne toutes mes iniquités, guéris toutes mes maladies. Je disais, ce ne sont que les maladies de mon âme. Mais quand j'ai lu Proverbes chapitre 4, versets 20-22, je ne pouvais plus tourner autour du pot. Dieu dit que sa parole est la vie pour ceux qui le trouvent et la santé pour leur corps. Et même un philosophe ne peut faire que le mot « corps » désigne autre chose que le corps. La santé pour mon corps physique en entier. Et alors j'ai regardé dans la marge, et l'autre traduction possible pour santé était « médicament ». Il se trouve que j'étais ce que l'armée appelle un aide-soignant. J'ai dit « comment font les gens pour prendre leurs médicaments ?» La réponse est « 3 fois par jour après les repas ». J'ai dit « voilà, c'est ce que je vais faire ». Je ne vais pas entrer dans les détails, mais sur une période de 3-4 mois, j'ai pris la parole de Dieu comme un médicament 3 fois par jour après les repas. Et cela m'a apporté une guérison complète et définitive sous un des climats les plus malsains qui soient au monde, celui du Soudan. Alors je vous le dis, frères et sœurs, ça marche. Maintenant, regardons juste 3 effets supplémentaires de la parole de Dieu, très rapidement. Le suivant est la victoire sur le péché et sur Satan. Psaume 119, versets 9 et 11. Comment le jeune homme rendra-t-il pur ce sentier ? En se dirigeant d'après ta parole. Et à nouveau, au verset 11, je serre ou garde ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Beaucoup de nos jeunes gens aujourd'hui se demandent vraiment s'il est possible de vivre une vie pure. La majorité de leurs éducateurs leur diront que non. ils leur recommanderont ce qu'ils appellent des rapports protégés, ce qui n'est jamais en danger. Mais la Bible dit qu'un jeune homme qui fait attention à ses voies, selon la parole de Dieu, peut mener une vie pure. Et je remercie le Seigneur de ce que, quand je travaillais parmi les jeunes gens africains, je voyais que ces mots s'accomplissaient encore et encore. Ils étaient rendus purs et vivaient des vies propres parce qu'ils prêtaient attention à la parole de Dieu. Vous rappelez-vous que nous avons lu Matthieu chapitre 4, quand Jésus se retrouva face à Satan, il ne l'a confronté qu'avec une seule arme. Il est écrit. Et puis encore, et nous allons aller très vite maintenant, dans Éphésiens chapitre 5, versets 25 à 27. Éphésiens chapitre 5, versets 25 à 27. Marie, aimez vos femmes. Laissez-moi juste vous dire, Marie, que ceci n'est pas un conseil, c'est un ordre. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et il s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier, après l'avoir purifiée par l'eau et la parole, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Comment Jésus se donnera-t-il une épouse sainte et sans tache? Par le lavage de l'eau de la parole de Dieu. La parole de Dieu nous sanctifie, elle nous purifie. Jean dit à Jésus, « C'est celui qui vient par l'eau et par le sang. » Pas seulement par l'eau, mais par le sang de son sacrifice. Il nous rachète. Mais l'eau de sa parole nous purifie et nous sanctifie. Nous avons besoin des deux. Nous sommes rachetés par le sang afin d'être purifiés par la parole. Et finalement, Jacques dit, nous n'allons pas le lire, mais dans son épître, chapitre 1, versets 23 à 25, la Bible est un miroir spirituel. Quand vous regardez en elle, elle ne vous renvoie pas votre image physique, elle vous montre ce à quoi vous ressemblez vraiment à l'intérieur de vous-même. Jacques souligne que quand vous vous regardez dans le miroir et que vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, la chose la plus sensée à faire est de corriger cela. Si vos cheveux sont en désordre, vous les peignez. Si votre visage est sale, vous le lavez. Vous agissez selon ce que vous voyez dans le miroir. Et Jacques dit que vous avez besoin de faire cela quand vous regardez dans le miroir de la parole de Dieu. Vous avez besoin de voir votre moi spirituel et de réagir en conséquence, quoi qu'il faille corriger. Récapitulons cela et terminons. Les 8 effets produits par la parole de Dieu. Elle produit la foi. Elle est la semence de la nouvelle naissance. Elle est la nourriture spirituelle. Elle donne l'illumination mentale, elle amène la guérison physique, elle rend possible la victoire sur le péché et sur Satan, elle donne la pureté et la sainteté, et c'est un miroir spirituel. Amen.
Enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.